TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés avec Adil Farkan, 19h, 20h comme chaque soir durant la semaine. Et oui, en ce 2 février, mercredi 2 février, au menu de cette émission de TimeFoot spéciale Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on parlera bien sûr de la Ligue 1 Uber Eats avec un Olympico très disputé hier soir dans leur antre lyonnaise. Le Covid-19, fin des jauges dans les stades en France, on reviendra sur cela. Et oui, la crise sanitaire est toujours présente dans le monde, faut le rappeler aussi à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. La CAN, et oui, le Sénégal qui veut réitérer, et oui, une finale dans cette phase finale hein, au Cameroun. On n'oublie pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Et comme invité ce soir, on aura le célèbre et le talentueux Romain Molina qui sera avec nous, journaliste écrivain, voilà, pour ses enquêtes aussi sulfureuses. On l'aura sur cette antenne de Beurre FM, comme on l'a vu la dernière fois en studio. Bon, là, on l'aura par téléphone. Allez, on va commencer cette émission avec le JT Sport qui nous a été réalisé par Jason, notre rédacteur. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Coupe d'Afrique des Nations, Sofiane Boufal et Sofiane Chakla seront tous les deux suspendus pour les deux prochains matchs du Maroc suite aux incidents survenus face à l'Égypte. Les deux joueurs éliminés de la compétition manqueront donc les barrages aller et retour de qualification à la Coupe du Monde face à la République démocratique du Congo en mars prochain. Convoqué pour une audience préliminaire au tribunal de Chester ce mercredi, le champion du monde français Benjamin Mendy a été visé par une nouvelle plainte, cette fois pour tentative de viol. Pour rappel, le joueur de Manchester City était déjà visé par 7 chefs d'accusation de viol et un autre d'agression sexuelle. Son procès aura lieu le 25 juillet prochain et pourrait durer près de 6 semaines. En football toujours, Daniel Alves ne disputera pas l'Europa League avec le FC Barcelone, l'UEFA n'autorisant que l'enregistrement de 3 nouvelles recrues en pleine saison, a dû pousser Xavi à choisir parmi ses 4 recrues hivernales et c'est donc l'expérimenté brésilien qui en fera les frais. On termine avec du basket en Euroleague. Monaco s'est imposé face au Panathinaikos 91 à 83. De son côté, l'ASVEL s'est incliné, elle, sur le parquet de Fenerbahçe 85 à 76. Voilà, c'est tout pour les infos du mercredi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et voilà, merci Jason pour ce magnifique JT Sport. Et nous, on est ensemble ce soir durant une heure jusqu'à 21h. Et on aura notre consultante Yasmine qui sera avec nous.
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde.
Oui.
Ça va très bien, un petit peu triste. Là.
Ouais, pourquoi triste?
J'ai refait le match dans ma tête là, de l'Olympico hier et j'ai pas dormi la nuit.
Lyon Olympique de Marseille, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Samir est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, Samir?
Ça va super. Bonsoir tout le monde. Bah, moi, ça va un peu mieux que Yasmine, puisque moi, à l'inverse de Yasmine, ça va super bien. Du coup, vu le résultat de l'Olympico, ça va super bien.
Ah, ben voilà. Il est heureux. On va voir si Mourad sera heureux aussi. Il sera avec nous. Sans oublier Vicneige. Comment ça va, Vicneige?
Salut, Pilar. Salut tout le monde. Bah, nous, on est bien. Yasmine, elle s'est ramené des crêpes en plus. Donc, voilà.
Ah, ben, merci Yasmine pour les crêpes. Alors, c'est bien, merci, ça, Vicneige.
Exactement.
C'est la chandeleur aujourd'hui.
Ouais, c'est la chandeleur.
Ben,
joyeuse fête. C'est bien ça. Vicneige, il a déjà pris des crêpes.
Dans toute l'émission, on parlait que de
Jason aussi. Voilà. Ouais, on en a rapporté pour tout le monde. Exactement. Ça, c'est très gentil, Yasmine.
C'est la classe, Yasmine.
Ouais, toujours. Allez, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
On file la longlaise. C'est bien ça, Vicneige. Hein. 2-1 hier soir. Hein. Shaqiri, Dembélé, Gendouzi pour l'Olympique de Marseille.
Bah oui, c'était un beau match, on va dire, dans l'ensemble, si on prend la généralité. Une bonne première mi-temps marseillaise, où Marseille a dominé, a maîtrisé le match, a eu la possession du ballon. Bon, après, comme dernièrement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas 90 minutes dans les pieds, dans les pattes. Je ne sais pas si c'est physique ou je ne sais pas ce qui se passe. Sans Paul, il faut voir. Mais ils ne tiennent pas dans la durée, alors qu'ils font des bonnes prestations, mine de rien, quand ils sont bons.
Ouais.
Ils font des bonnes choses intéressantes. Il y a du jeu, il y a des beaux jeux avec des partenaires, enfin, ça se passe bien, je trouve. Le jeu est maîtrisé quand c'est le cas, et après il y a un relâchement, on ne sait pas trop pour quelle raison. Et du coup, Lyon a su saisir l'occasion, a su faire la différence pour s'imposer. Et moi, je trouve que la victoire lyonnaise n'est pas forcément méritée, on va dire, je pense. Mais bon, ils ont su prendre les occasions, faire la différence. Et il faut noter qu'il y a énormément d'absents côté lyonnais, il y avait énormément de joueurs qui n'étaient pas là. Donc malgré ça, Lyon a su gagner, a su faire la différence. Ils ont su profiter des défaillances marseillaises.
Oui.
Ça, c'est intéressant, ça, il faut le noter.
Malgré une ouverture du score précoce par Guendouzi, c'est vrai, on a pu découvrir peut-être un OM sans saveur, Yasmine, hier soir.
Grosse faute professionnelle de la part de l'Olympique de Marseille et des joueurs marseillais. Mais il y a plusieurs choses à retenir de ce match-là. Effectivement, déjà la compo. Mettre Luis Enrique titulaire lors de ce match contre Lyon.
Ça fait quelques temps où il est titulaire.
Ce que je ne comprends pas, c'est que Marseille a réussi à recruter le seul Brésilien qui ne sait pas dribbler. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé.
Il ne sait absolument pas dribbler.
Je pense être juste. C'est le seul Brésilien qui ne sait pas dribbler. Il ne sait que courir. Je pense qu'il s'est complètement trompé de sport, ce joueur-là. Je suis assez déçu déjà de le voir sur ce match-là. Et également le fait qu'il n'ait pas été soit prêté, soit vendu pendant le mercato d'hiver. Deuxième chose, Lirola, pour moi, il a été, cette saison en tout cas, il est l'ombre de lui-même par rapport à la saison précédente. Ça, je trouve que c'est vraiment un point très négatif pour l'Olympique de Marseille. Et troisième chose, c'est le coaching de Sampaoli. Marseille a galéré pour trouver un numéro 9, un grand attaquant, et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils ne le mettent pas titulaire. Le faire entrer à la 86e minute, à quoi ça sert? Donc complètement déçu par ce match. On avait la possibilité de mettre Lyon à distance. Là, on fait revenir Lyon à 6 points. Donc là, c'est un très très mauvais résultat pour l'Olympique de Marseille.
Samir, alors
je rejoins un peu ce qui a été dit juste avant par Viknesh et par Yasmine, mais je pense que le coach marseillais s'est dit, enfin un peu comme tout le monde, moi j'ai eu le sentiment qu'en première mi-temps le Marseille contrôlait un petit peu le match et gérait un petit peu le match de manière un peu sereine, et en fait tout a tourné en deuxième période.
Ouais.
Donc forcément tu as plein de joueurs, il faut un peu concerner tout le monde, donc forcément de temps en temps il faut un petit peu que tu responsabilises les autres, ceux qui jouent pas tout le temps. Donc en première mi-temps je me suis dit le Marseille va gagner le match tranquillement contre les jeunes lyonnais, et au final il s'avère que comme Yasmine l'a bien expliqué, finalement c'est l'Olympique lyonnais qui gagne le match avec les jeunes. Effectivement, je pense que sur ce match il y a certainement une erreur du coach marseillais. Pour un grand match comme celui-ci, il fallait peut-être mettre l'équipe type. Si tu as envie de tourner, tourne l'effectif, mais sur un prochain match, sur un autre match, mais pas sur un Olympico.
Ouais.
Voilà. Donc en première mi-temps, j'étais plutôt serein pour l'Olympique de Marseille. Et tu le sais, Bilal, à quel point je suis très mauvais en pronostic.
Sincèrement,
je suis un très mauvais pronostiqueur. Et je voyais bien l'Olympique de Marseille gagner. Au final, j'ai moi-même été surpris par la victoire de l'Olympique lyonnais.
Je pense
que l'erreur est en seconde mi-temps par le coaching du coach marseillais.
Je pense qu'il a complètement sous-estimé l'Olympique lyonnais. Il s'est dit, il n'y aura pas les titulaires de d'habitude. Donc là, je vais mettre une équipe peut-être un petit peu différente. Et puis finalement, au niveau de sa compo, Luis Enrique, faire entrer Milik à la fin du match, ça, pour moi, ça a été un manque d'humilité aussi du coach marseillais.
9e minute, toujours 0-0 sur cette première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Burkina Faso face au Sénégal. Viknesh, l'Olympique de Marseille, justement, et les Lyonnais.
Après, Lyon, alors, je trouve qu'ils ont bien géré, mine de rien, parce qu'ils avaient énormément de joueurs qui étaient absents. Donc le banc lyonnais a fait la différence, ce qui moi il est étonnant, parce que Marseille avait une équipe plus compétitive, ils avaient un banc plus compétitif aussi.
Ouais.
Même au coup d'envoi, je trouve que l'équipe de Marseille elle était supérieure sur le papier en tout cas. Donc logiquement Marseille devait faire la différence, était favori, et malheureusement non, ce n'est pas le cas. Donc c'est bizarre, parce que Sampaoli en fait il dit des choses, il veut faire quelque chose, mais sur le terrain on voit pas exactement ce qu'il veut faire, parce que mine de rien il voulait des attaquants, il les a avec Milik, pas comme vous, il a les joueurs qu'il faut.
Ouais.
Et il les fait pas jouer. Même si après, faut voir le jeu qu'il veut mettre en place, ça peut-être pas correspondre à son jeu, il veut peut-être des attaquants différents, c'est pour ça qu'il met souvent Payet en numéro 9. D'accord, je comprends. Mais après, s'il se rend compte que c'est pas forcément efficace, qu'il marque pas énormément, même si c'était la meilleure défense de Ligue 1, mais là, il n'y a pas que la défense, il faut marquer à un moment ou à un autre. Donc il faut faire du jeu, il faut avoir les joueurs. Il y a Guendouzi qui est là au milieu, qui tient le milieu de terrain à lui tout seul pratiquement. Rongier, il a été bon par moment. Mais Marseille, en fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas stable, c'est pas très, très régulier, je trouve.
Je pense que la stratégie de Sampaoli, elle a fonctionné, mais elle a fonctionné que 45 minutes.
C'est ça, c'est toujours comme ça.
On l'a vu sur un laps de temps, c'est vrai.
Parce qu'il y a des moments, en fait, je trouve qu'il y a des matchs où il fait des choses très intéressantes. On voit par quelques minutes, il y a des actions où on voit que Marseille peut faire du jeu. Et peut-être la meilleure équipe en France pour faire du jeu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais sur la durée, sur un match complet... Non, il y a des passages à vide. Et du coup, les adversaires qui sont plus ou moins intelligents, qui savent contrer l'attaque de Marseille et le jeu de Marseille, ils arrivent à faire la différence et marquer. Et c'est ce qui s'est passé hier avec Lyon. Lyon, ils ont vu qu'ils pouvaient avoir des occasions, ils pouvaient faire mal à Marseille, et ça a été le cas. Et Marseille, non, ils font des bouts de match, des très bons bouts de match, mais c'est pas assez long. C'est pas
Yannis, c'est notre réalisateur, il a dit que tu es contre Marseille.
Non, j'analyse. Moi, je suis pour Saint-Etienne, donc voilà, peu importe en vrai.
Ouais. Alors, juste avant l'émission, il m'a dit qu'il était pour Paris.
Mais toi aussi, quand même. Alors.
Je comprends pas, moi.
Ouais.
Je suis comme la Suisse.
C'est vrai qu'on voit quand même assez de problèmes sur cette équipe marseillaise. Quand je dis problème, c'est une mi-temps, un laps de temps, un fait de match, peut-être pour renverser la situation. Mais c'est vrai, on en avait déjà parlé avec le coach Tolé, avec Kamel.
Exactement. Après, avec Sampaoli, pourtant, il connaît ce genre de match important.
Justement, l'Argentin, oui.
Je ne sais pas pour quelle raison il a fait un turnover à un match aussi important. Très sincèrement, je pensais voir.
Il a peut-être sous-estimé Lyon, simplement.
Si on peut mettre un petit bémol aussi sur le match de Dimitri Payet, qui, depuis le début, vous le savez à quel point je suis pas fan de l'Olympique de Marseille, je le dis de manière très claire depuis le début. Mais Dimitri Payet est vraiment le joueur numéro un de ce club. Ouais. C'est toujours celui qui trouve les passes clés, c'est toujours celui qui délivre
celui qui
un peu.
Aussi, souvent.
Voilà, exactement. Et sur cet Olympico, j'ai pas trouvé un Dimitri Payet que j'ai tant apprécié depuis le début de saison. Et je pense que c'est dans ce genre de match justement qu'on aurait dû trouver un Dimitri Payet au-dessus des autres. Et surtout, voilà, l'Olympico, ça reste un match particulier. On sait que l'OL et l'Olympique de Marseille, ce ne sont pas non plus des grands amis. Et puis, comme Yasmine le dit si bien, c'était l'occasion de vraiment mettre l'Olympique Lyonnais à distance. C'était l'occasion.
Lyon revient
à la limite,
place.
Tu ne gagnes pas, mais tu ne perds pas.
Ouais.
Je trouve ça vraiment dommage. Donc
intéressant ce que tu dis.
Voilà, bravo
tout
à l'Olympique Lyonnais pour
Yasmine et aussi Viknesh. Alors la réaction concernant cet Olympico rejoué aussi, et justement où on a pu apercevoir Jean-Michel Aulas sur les incidents de cet Olympico. Je n'en parlerai plus cette année. Et Mourad, on espère qu'ils vont en parler. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à tous. Deuxième retard de la semaine pour moi. Donc, je pense que.
T'es trop fan de Babayan, toi.
On a reçu le mot.
Le CPE. Jason,
c'est le surveillant. Il nous a fait part du biais de retard.
Exactement. Non, mais je suis d'accord avec Samir concernant cet Olympico. Moi, je m'attendais à. Il y avait tellement eu de déclarations par médias interposés entre les deux présidents. Je m'attendais à un règlement de compte footballistique. Or, ce n'était pas le cas. Zéro carton dans ce match.
Ouais, Mourad.
Un but de la tête de Shaqiri, zéro penalty pour l'Olympique Lyonnais, un stade vide. Donc voilà, c'était un match, on va dire, au même titre qu'on a dit que PSG Nice, qui était un match de Coupe de France, avait des allures de Coupe de la Ligue. Hier, c'était un match de Ligue 1 qui avait des allures de match de Coupe de France. Donc voilà, à part quelques individualités, moi j'ai bien aimé le match de Malo Gusto, c'est ça ?
Ouais,
Malo Gusto. J'ai bien aimé Ryan Cherki aussi, j'ai bien aimé Cacré. Qui était hyper actif, qui était partout au milieu de terrain. Et encore une fois, vous l'avez cité en début d'émission, c'est le rôle de Sampaoli. Sampaoli, toujours amorphe, qui ne fait pas de changement. Quand il voit que Peter Bosz, qui l'a mangé tactiquement hier, qui fait les changements à la mi-temps, qui est réactif et que lui ne réagit pas.
En seconde mi-temps.
Exactement, en seconde mi-temps, avec l'entrée de Dembélé, lui ne réagit pas. Donc encore une fois, des changements tardifs. Yasmine l'a dit, Harit qui rentre avant Milik. Et j'en passe, donc voilà, beaucoup de défauts, et je pense que là, c'est pour la part de Sampaoli hier.
On en attend beaucoup plus d'ailleurs d'Amin Harit, parce qu'on sait qu'il a la qualité, enfin voilà, peu importe comment tu l'utilises, en tant que titulaire, en tant que joker, mais dans tous les cas, peu importe, c'est un joueur, je me dis, dans la prise de balle, dans l'élimination, il est très très bon, et depuis le début de saison, j'ai pas encore vu un Amin Harit qu'on aime, quoi, concrètement. Donc,
j'ai l'impression que physiquement, il n'est pas encore au point.
On est quand même en février.
Mais je pense qu'il n'est pas encore au point.
Oui, exactement. Ouais. Après, elle a cité tout à l'heure Yasmine, elle parlait de Luis Enrique, qui était le seul Brésilien qui ne driblait pas. Amin Harit, je pense, a le contraire des problèmes de Luis Enrique. Donc, s'il pouvait fusionner, je pense que ça ferait le joueur parfait pour l'Olympique de Marseille, au moins pour être dans le groupe élargi et faire quelques bonnes rentrées. Mais il a provoqué. Enfin, pour moi, il y avait un petit quelque chose.
Il y a quelque chose, c'est ça.
Il y a des intentions.
Il y a des bas sur quand il tombe dans la surface à Minerve. Mais à part ça, c'est vrai qu'on en entend beaucoup plus quand on l'a vu évoluer à Châles, quand on l'a vu avant.
Mais c'est
à Nantes.
Ses statistiques aujourd'hui, ouais. Minerve à l'OM.
Bah, tu sais, après, tu connais mon point de vue sur les statistiques. Hier, en regardant le match, statistique ou pas, il était. C'était un peu light pour Minerve. Après, c'est l'animation. Enfin, je pense qu'ils ont un problème de motivation. C'est quand même la meilleure défense de Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Donc ils sont venus hier, ils se sont dit on mène 1-0, ça va se passer, on va passer la deuxième mi-temps tranquille. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un excès de zèle, excès de confiance côté marseillais. Après, Saliba.
Il faut pas tout jeter. Ils ont fait 5 matchs sans défaite. Ils étaient sur une bonne lancée. Je connais pas les statistiques de Sampaoli à la tête de l'OM avec le nombre de défaites, mais voilà, mais c'est pas si catastrophique que ça.
Il a fait mieux que ses prédécesseurs.
Exactement.
Ouais. Alors moi, vas-y moi. On poursuit.
Bon, c'est un très bon joueur. Moi, vous connaissez ma passion pour les Gunners d'Arsenal. Moi, j'aime beaucoup Saliba. On l'a prêté, etc. Mais hier, il y a un vrai attaquant en face de lui. Là, tout de suite, en deuxième mi-temps, c'était plus le même match pour lui. Il était en souffrance. Dembélé, qui s'est transformé en Romario lors de son entrée. Je ne sais pas si le Covid lui a été bénéfique.
Il était
positif. 48 heures avant le match. Ensuite, il a fait un test 20 minutes avant le match. Il est rentré. Il a fait un contrôle.
Et voilà.
Hors du temps, à la Romario, contre l'Orienté Porte-Manteau. On n'avait jamais vu ça. Donc,
incroyable.
Donc voilà, et là, Saliba paraissait pour un vulgaire défenseur de Ligue 1. Voilà. Un défenseur qui ne vaut pas 20 millions et qui est courtisé par le FC Barcelone, etc. Donc voilà.
Incroyable.
Ouais. J'ai bien aimé aussi le match de Paulo Lopez. Mais d'ailleurs, il y a des blancs.
Mais non. C'est pas ça. Il n'y a plus rien à dire, quoi. Match-là. Olympico, voilà. C'est on a parlé même de son président.
Je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est peut-être un symbole. Le corner de Dimitri Payet.
Oui, Mourad.
La passe décisive de Guendouzi, c'est là où il avait pris la bouteille.
Bah, ils sont allés célébrer au poteau de corner, d'ailleurs.
Voilà, hein, exactement. Donc, comme un symbole.
Il a noté. Il le fait bien, Mourad. Yasmine, Samir et Viknesh. Reste avec moi jusqu'à 21h sur l'antenne de Beurre FM. On se retrouve après une courte pause avec notre invité qui n'est autre que Romain Molina. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. Revient dans un instant. 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Yasmine, notre consultante. Viknesh est avec moi, sans oublier Mourad et Samir. Voilà, on se mercredi soir. Allez, Viknesh, on a peut-être, oui, le score. On avait eu des compositions avant le début de l'antenne. Toujours 0-0 entre le Burkina et le Sénégal, Mourad. 20e minute de jeu, je crois. Oui, c'est bien exactement. Ça, Samir, hein, Yasmine, ouais.
Exactement.
Effectivement, moi j'aimerais bien une victoire du Sénégal.
On va en reparler du Sénégal dans cette émission.
Ok, super. Je te laisse contrôler le débat.
Non, il n'y a pas de problème. On va revenir sur le Sénégal, sur cette Coupe d'Afrique des Nations.
J'ai vu un rebelle comme Mbappé Yang aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe. Eh oui, ça c'est pas bon. Oui, toi aussi, Viknesh, rebelle.
Non, jamais.
C'est ça.
Non, jamais. Calme.
Oui, Samir, ça va. Il est assez.
Il rentre dans le rang, Viknesh. Toujours.
Mais une bonne équipe là ce soir.
En 98.
Ah, mais non, bon.
François fait appel à lui,
mais Franck Leboeuf a fait le bilan, le boulot en finale.
Il était là. Il était là.
C'est le champion du monde.
C'est vrai. C'est vrai. C'est notre champion du monde, c'est bien ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Il le fait si bien. Samir, il est avec nous toujours. Allez, on va s'attarder avec notre invité de ce soir. On y va.
The Special One.
Romain Molina, bonsoir. Comment ça va, Romain?
Bien, toi?
Ça va très très bien, Romain. Ça fait longtemps. Et on me dit, Bilal, ce soir, vous recevez Romain Molina, l'écrivain indépendant et aussi conférencier. Il a quand même publié pas mal d'ouvrages sur des enquêtes, que ça soit dans le sport et même hors des terrains de football ou encore. Romain Molina, un plaisir de l'avoir avec nous ce soir. On va revenir concernant cette planète sport, Romain. Voilà. Comment va aujourd'hui le sport en général avec cette crise sanitaire, avec tous les épisodes qu'on a vu passer jusqu'à aujourd'hui, que ça soit le football et autres aussi?
Bon, malheureusement, il y a une déliquescence que je pense que tout le monde peut voir davantage chaque jour à travers la décadence des instances internationales sportives, hein, que ce soit le CIO, qui est un excellent exemple, la FIFA, la FIBA pour le basket et autres. Donc malheureusement, j'ai envie de dire que quand on voit aussi le nombre d'affaires judiciaires qui, principalement dans le foot, qui mettent en cause des dirigeants de clubs ou d'institutions, on peut pas dire que ça va très très bien. Mais bon, il y a quand même toujours cette grande passion, mais la question c'est jusqu'à quand ça va durer.
Alors justement, on va enchaîner avec Mourad.
Oui, non, alors. Effectivement, non, mais c'est, je suis d'accord. Enfin, pour moi, alors bonsoir Romain. Pour moi, c'est un ovni du journalisme français. Il a pointé du doigt beaucoup de fléaux, la pédophilie, le racisme. J'en oublie. Il a même récemment les gaz hilarants. Et j'avais une question pour Romain et je m'étais dit, est-ce qu'il y a un autre fléau qu'on n'aurait pas vu dans le monde du football qui pourrait éventuellement pointer du doigt et qui arrive sur 2022 et qui fait beaucoup de mal à notre sport préféré?
c'est une bonne question. Bon, j'imagine qu'il y en a déjà beaucoup quand même quand on regarde hein, les matchs truqués. Ouais. Même si les matchs truqués, souvent j'entends beaucoup de bêtises parce que derrière, c'est pas simplement pour gagner de l'argent, c'est souvent pour en blanchir avec des grands syndicats du crime, principalement en Asie du Sud-Est, principalement des triades et également des réseaux de Singapour. Ça, c'est un vrai fléau dont on parle très peu parce que c'est loin de nous l'Asie, mais je peux vous assurer que c'est. Pour faire juste un point de comparaison facile, les marchés clandestins du Paris, donc liés aux rencontres de foot, notamment et même autres, je crois, c'est similaire au chiffre d'affaires de Coca-Cola. Pour donner une petite ordre d'idée,
ouais,
de la somme d'argent dont on parle.
Ouais.
Et donc il y a ça, évidemment, dont on parle peu. Après, moi je le répète et je me bats depuis un moment là-dessus, le plus grand fléau dont personne ne veut vraiment parler et mettre les mains dans le cambouis,
alors c'est quoi, Romain ?
Le sport mondial. C'est les abus sur mineurs dans les fédérations et équipes nationales.
Ouais.
Il va pas falloir parler chinois.
Ouais.
On va parler concrètement. C'est ça, le principal problème, c'est ça, parce que c'est partout, c'est endémique.
Et tu as même parlé gabonais, hein, Romain, hein, récemment.
Surtout.
Il y a tellement de choses. Mais c'est tous les jours, je reçois des. Enfin, pas tous les jours, mais toutes les semaines.
Ouais.
Et je parle que de fédérations internationales. Je parle pas de petites. Je parle des équipes nationales, de divers sports, hein, taekwondo, basket, handball, surtout foot. Bah, demain, on sort encore un gros cas dans la Caraïbe. C'est vraiment flippant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une couverture des instances. On se pose certaines questions.
Ouais. Romain, on poursuit cette interview avec Samir, notre consultant. On t'écoute, Samir.
Bonsoir.
Romain Molina.
Bonsoir, Romain. Effectivement, tu dénonces régulièrement en fait des injustices qui se passent autour du monde du football. Et récemment, j'ai eu des témoignages de plusieurs de joueurs de foot international africains. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations, comme tu le sais. Et tu sais que j'ai même des amis camerounais qui me disent « Écoute Samir, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Cameroun qui va la gagner. » Est-ce que tu es de cet avis? Et quand ils me disent ça, ce n'est pas parce que sportivement, le Cameroun est au-dessus des autres nations, mais c'est parce qu'en parallèle, il se passe des choses un peu ambiguës, mettre un Mohamed Salah positif 48 heures avant le match, ce genre de choses. Est-ce que tu as éventuellement des infos sur cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun?
Non, sur ça, je ne pourrais pas te dire qui va gagner si c'est complètement truqué, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un désastre, l'organisation. Alors après, ils vont couvrir ça en te disant que, en payant des influenceurs pour dire que ça va, que c'est magnifique et que le peuple camerounais est gentil, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il y a quand même eu des morts. Donc tous les gens qui font la promotion en disant que l'organisation est magnifique, quand il y a eu des morts après un match, il y a eu des problèmes vis-à-vis des entrées et des sorties du stade Olembé. Sachant que le 17 novembre, la CAF avait envoyé un mail aux commissions camerounaises pour mettre en garde déjà sur l'aspect extérieur du stade Olembé. Il y a des gens qui ont du sang sur les mains déjà. Donc une pensée évidemment à tous ceux qui ont perdu la vie. Deuxième point, je ne sais rien pour les tests Covid, moi ce que je peux te dire qui est très savoureux, c'est que par exemple, il y a un joueur tunisien qui a été contrôlé positif. Il a refait le test sur la même machine deux fois dans la même heure. Il a été négatif.
Romain, il y a eu récemment une interview de Ahmed Mogni, le joueur qui a mis le doublé contre le gamin avec les Comores. Ouais. Et avant de jouer le match contre le Cameroun, on lui a conseillé de se cacher quand il allait faire en fait les tests Covid en fait, parce qu'il avait peur justement qu'on le mette volontairement positif au Covid. Donc il a mis une capuche et une écharpe sur son visage pour pas qu'on le reconnaisse. Tu imagines ce qu'on est obligé de faire en fait pour être négatif dans cette compétition?
Après c'est le laboratoire, c'est un laboratoire qui est intégré par la FIFA surtout. Après j'ai pas envie de tout mettre sur le Cameroun. Et la CAF et la FIFA, puis il y a toutes les rivalités internes, parce que là maintenant la FIFA veut la tête de Samuel Eto'o parce que il s'était rebellé contre le président de la CAF qui a vraiment voulu enlever la canne au Cameroun, enfin, délocaliser soit la décaler en disant qu'il n'était pas prêt. Sans quoi il n'avait quand même pas tort. Mais bon, il y a aussi des journalistes algériens qui ont été agressés au couteau. Enfin, en termes d'organisation, je pense que ça ne fait pas honneur à ce grand pays de foot qu'est le Cameroun, surtout. Sachant qu'on rappelle que le Cameroun aurait dû organiser déjà la précédente, hein, parce qu'ils n'ont pas pu, ils étaient
prêts,
c'est l'Égypte qui a remplacé. Donc ce qui en fait est un peu, c'est de voir. Il y a toujours eu des failles terribles, des gens perdu la vie, ce qui n'empêche pas et encore une fois je le répète, le Cameroun c'est un grand pays de football, donc de toute façon tout à ce niveau là les gens méritent bien mieux. Maintenant sur les tests, c'est une blague. Il y a eu des tests où t'es positif, après tu le fais dans la même machine, t'es négatif, enfin, c'est une blague. La Tunisie peut en parler aussi, donc ça, mais c'est pas de la faute de l'organisateur par contre pour le coup.
Oui, là, effectivement
le laboratoire et tout, ouais.
il y a un limite, un conflit d'intérêts entre.
Alors Mourad.
Entre la CAF et la fédération camerounaise, on ne sait pas qui gère quoi. Ensuite, l'apothéose
c'est
a
la
été.
CAF, c'est la CAF.
Donc effectivement, non, la CAF est au-dessus de l'organigramme.
Par le comité
mais j'ai une petite question pour Romain. Est-ce que tu as eu pendant la Coupe d'Afrique des Nations un témoignage d'un international ou pas là pendant la compétition?
Oui, j'en ai eu plusieurs.
Sur la manière dont la compétition se déroule, voilà, enfin. Sur tout ce qu'on entend depuis le début de la compétition, quoi.
La plupart te diront que c'est la pire CAN qu'ils ont.
En termes d'organisation, enfin, on a
ouais,
tout vu.
Organisation. Hein.
Bah écoute, ça me fait.
C'est avec Romain Molina.
J'étais à deux doigts de dire ça me fait plaisir de l'entendre, mais ça me fait pas plaisir en fait. Mais effectivement, c'est ce que moi je ressens depuis le début, mais ouais.
Après, ils osent pas trop le dire, mais il y en a qui le disent. Demandez aux Tunisiens, tu vois.
Ouais.
Demandez aux Tunisiens.
On a Yasmine.
Rien contre le Cameroun, tu vois.
Ouais, justement.
Encore une fois, c'est rien contre le Cameroun.
Ouais.
Mais les organisations, je répète, il y a des morts.
Oui.
Moi j'ai une question.
Milan. Répète. Alors,
et
Mourad.
Dit que c'était la faute des gens quand même. Hein,
ouais.
Les communiqués.
Ouais, vous le soulignez, Romain.
Mais sinon.
Ouais. Incroyable. Mourad et Yasmine.
Non, effectivement, bon, on est en pleine CAN. Romain Molina a l'habitude de couvrir certains fléaux sur la planète football, que ce soit Haïti, le Gabon. Il vient d'évoquer les paris truqués en Asie, etc., etc. Moi, je voudrais revenir un peu sur la France. Il y a eu, une affaire. Pas très longtemps avec le SCO d'Angers et notamment Stéphane Moulin. Donc je voulais juste avoir un peu statué, savoir où est-ce qu'il en était sur l'affaire, puisque je ne sais pas si ça arrivait au tribunal ou pas.
Ouais.
Mais je voulais juste savoir s'il y avait des nouvelles, qu'est-ce qui avait été balancé. Il n'y a pas de nouvelles. Donc il y avait un grand communiqué de la part de Moulin sur les réseaux sociaux en disant que il allait éventuellement saisir la justice, etc. Ça n'avait jamais été le cas.
Ouais.
Bah, non.
Oui, on n'a rien eu quoi.
Bah, du coup, Laïdouni, Belaïli et tout.
J'ai
tous les joueurs.
Pour rejoindre un petit peu la question de Mourad.
Ouais, pour poursuivre.
J'ai quelques connaissances qui sont passées par
le
SCO d'Angers. Romain, j'ai un petit peu suivi tes space, un petit peu tes vidéos.
Ouais, les vidéos.
C'était juste pour vous dire que, pour tous les auditeurs, auditrices, Romain Molina n'est pas fou. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a mis en avant, je peux, moi, le confirmer. J'ai entendu en temps et en heure exactement ce que tu as confirmé, Romain.
Bien sûr, on le prend pour une personne assez sulfureuse, Romain Molina.
Il est pas fou. Tout ce qu'il a dit dans des space, en fait, c'est des choses qu'on me disait en temps et en heure. Parce que forcément, comme vous le savez, j'ai eu quelques amis qui sont passés par ce club. Donc, en gros, tout ce qu'il a dit, c'est vrai.
Tous les gens du foot connaissaient. C'était pas un scoop, ce que j'ai dit. Tout le monde est au courant. Par contre, on se pose la question de pourquoi il n'y a pas un joueur, notamment ceux qui ne jouent plus, qui n'est pas à un moment donné capable d'expliquer, mais qui vient toujours se réfugier. Non, frérot, on peut pas, etc. Comment ça, vous pouvez pas? Comme ça, tu peux pas dire certaines choses.
Ils pensent à leur carrière, Romain, je pense.
Non, mais ceux qui ont fini leur carrière.
Oui.
Même ta carrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a le droit de t'insulter, parce qu'il y a eu des mots très durs quand même. Je pense que tu vois le mot qui commence par T.
Bonjour.
Il a été prononcé pour des histoires de prière.
Oui.
Bah, c'est pas mon histoire, donc je vais pas la raconter.
Bien sûr.
Mais j'espère qu'un jour ce monsieur la racontera, le joueur. Et en plus, ça a été fait devant témoin.
Bien sûr.
Il raconte ce qu'il lui a dit.
La dignité avant la carrière. C'est un principe.
C'est choquant.
Oui.
Après, ça veut lui faire quoi pour sa carrière aujourd'hui, Stéphane Moulin? Le budget de Caen, ils sont incroyables, c'est le 14e ou 15e de Ligue 2.
Oui.
C'est-à-dire que Stéphane Moulin, c'est quand même pas aujourd'hui. Bon. Et puis je veux dire, Angers, c'était connu de tout le monde. C'était vraiment pas un secret. C'était la chasse au ramadan. D'ailleurs, moi, j'ai juste dit ça. C'est lui qui s'est enflammé en disant que j'ai traité de raciste. J'ai jamais dit ça, moi.
Bien sûr.
C'est un lapsus peut-être révélateur de sa part. Moi, j'ai jamais dit ça.
Ouais.
C'est simplement dit, je devrais travailler davantage les sorties de balle que faire la chasse à qui fait le ramadan.
Romain Molina, reste avec nous.
Romain, alors, juste en tout cas, par rapport à tout ce que tu as dit par rapport au ramadan, etc. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas fou. Je suis au courant de tout ce que tu as dit.
C'est Samir, le consultant, qui l'a dit.
Tout ce que tu as dit est vrai. Et voilà, je le sais, Romain. Voilà,
on poursuit avec Yasmine, Romain Molina, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM, qui, elle est tunisienne, justement, Yasmine.
Alors, je vais pas parler de la Tunisie, là, quand même. Bonsoir Romain, mais j'avais une petite question. Est-ce que tu penses qu'il y aura des scandales, des affaires qui vont surgir autour de l'équipe de France avant cette Coupe du Monde?
Autour de la Fédération Française, de l'équipe de France, je ne sais pas, mais de la Fédération Française, oui. Mais pas qu'un.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Tu nous donnes la date du Space, s'il te plaît? Ah,
non. Mais non, non, quand même. Ce sera pas sur un Space, ce sera sur un très gros média international, mais oui, il y aura plusieurs choses qui vont sortir. Oui. Mais tu sais, ce qui moi me désespère le plus, c'est qu'il y a des gens, ça fait plus d'un an et demi qu'ils auraient pu le sortir. Hein. Ils ont tout en main. Hein.
Ouais.
Et ce sont des journalistes connus, ils l'ont.
Ouais.
Ils ont les trucs en main.
Donc on s'inquiète plutôt sur quel type de fléau ? C'est plus sur du racisme, l'islamophobie, de la pédophilie, des paris truqués ? Est-ce que tu peux nous donner quelques billes ?
Je pense qu'il y a un mix un peu de tout ça, mais...
Wow, ça fait beaucoup.
C'est assez fou, Romain.
C'est une tribe internationale organisée.
Mais ça me passe à la fédé.
Romain, on a de l'investigation aussi, mais on aimerait s'attarder, parce qu'on a des supporters du Paris Saint-Germain, aussi de l'Olympique de Marseille, sur ses ventes de clubs, ses achats de joueurs. Voilà, est-ce que vous avez des infos aussi ce soir à nous balancer? Est-ce que c'est vrai cette Yasmine, on le sait qu'elle est supporter, supportrice de l'Olympique de Marseille,
justement.
Du PSG. Allez, du PSG, on va terminer avec l'OM.
Je sais que j'ai regardé un petit peu la chaîne YouTube de Romain et ses vidéos qui ont le plus de vues, c'est celles qui parlent du PSG. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement qui dirige le PSG? Que ce soit le PSG, l'équipe masculine ou le PSG, équipe féminine aussi.
Les féminines, c'est un désastre. Oh là là, ce qui va se passer là. Ils ont pété tout le vestiaire, tout, magnifique. Chez les hommes, une direction au Qatar, une autre en France, ils se tirent les balles les uns entre les autres. Le grand patron, c'est les murs, hein. Il n'a pas le temps, donc il délègue. Et ça a toujours été le problème du PSG, on ne sait pas qui fait quoi. Et on ne sait pas qui ramène qui. Enfin, je veux dire, on ramène. J'ai rien contre Ulrich Ramé. Hein.
Ouais.
Ramener Ulrich Ramé, directeur sportif des féminines, quand on est le PSG, je n'ai pas tout compris. Donc, je vais être assez étonné. Quoi,
Elle est étonnée. Samir, peut-être toi aussi, au Wicknesh.
Romain, une petite info au niveau de la direction du Paris Saint-Germain. Donc, on dit en coulisses que Zidane n'est pas contre une arrivée au Paris Saint-Germain. Mais s'il arrive, il faut que Leonardo ne soit plus là. Donc, aujourd'hui, Leonardo, lui, a tout intérêt à faire prolonger Pochettino pour justement éviter ce genre de choses. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu...
Il se déteste, Leonardo et Pochettino.
Ouais.
Donc, après, Leonardo est détesté par Nasser.
Ouais.
Waouh.
Wow. Et vice-versa, il suffit de demander à Jean-Marcel Ribes, l'adjoint de Nasser, ce qu'il pense de Leonardo. Il le dit à tous les journalistes. Mm-hmm. C'est pas un scoop, hein. Dès qu'il y a un article contre Leonardo, il envoie des messages pour dire « Vous avez vu, c'est bien ». Bon bah voilà, à partir de là tu comprends que le club ça va pas aller très très loin hein, quand tu te tires des bâtons dans les roues comme ça. Après sur ça il a pas forcément tort Jean-Marcel Ré, parce que là Leonardo il est détesté par les agents, par les clubs. Demandez au Bayer Leverkusen, j'en parlais avec quelqu'un en fait. Il y a le prêt d'un joueur qui a foi au dernier moment, c'est Leonardo, hein, c'est personne d'autre.
Du coup tu crois à une arrivée de Zidane au Paris Saint-Germain ou pas du tout?
Ça c'est au-dessus de moi. Moi ce que je peux te dire c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va vouloir travailler avec Leonardo.
Oui. Ça c'est dommage. Tu vois Wicknesh? Justement, tu réponds quoi à Romain Molina, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM?
Non, je ne vais pas lui répondre. Moi, je vais dire bravo pour tout ce qu'il fait, pour son travail, parce qu'il faut des gens comme lui.
Ouais.
Mais après, la seule question que je vais lui poser, c'est par rapport au championnat de France, parce qu'il a parlé d'énormément de clubs où il y avait des affaires, où ça ne travaille pas bien. Mais si on regarde le point positif, est-ce qu'il y a des clubs qui travaillent bien?
Quand j'en parle avec des gens dans les clubs et... qui font du foot, il n'y en a pas beaucoup qui te disent oui, t'es déjà en galère. Après, bon, t'as des clubs qui ont des projets à peu près stables. Hein. Strasbourg, c'est un projet à peu près stable. Rennes, ça va. Montpellier, Marseille, non. Marseille, dans les transferts, c'est Micmac. Lyon, ils font n'importe quoi.
Les plus gros clubs, quoi.
Dans les grands clubs, il n'y en a aucun qui fonctionne bien. Ouais.
Non, mais et au FCMS, ça travaille bien au FCMS avec, je sais pas si t'as pu
non,
te...
Non,
Génération Foot,
jamais.
Etc. Il faudrait peut-être creuser là-dessus.
C'est un hyper club de France. Je me rappellerai toute ma vie, Habib Diallo, quand il est parti à Strasbourg, il s'est pris des pressions, des filets, là. Mais c'est malheureusement, c'est le foot. Il y a des gens qui essaient de travailler bien, mais il y en a d'autres qui sabotent pour des affaires personnelles. C'est des clubs comme Valenciennes, c'est des pétodières. Enfin, c'est triste, quoi.
Romain Molina, que s'est-il passé à l'Olympique Lyonnais avec Juninho? Voilà, c'est un auditeur de Beurre FM qui vous pose la question, Romain.
Bah, il avait un conflit avec Vincent Pousseau, qui est le bras droit de Jean-Michel Aulas.
Ouais.
Et bon, je vais dans une réunion, je lui avais dit, oh, je sais qu'on s'aime pas, mais on peut travailler ensemble, on peut recommencer et tout. Et puis, voilà, la franchise de certains ne plaît pas. Et puis bon, il a pris, d'un côté, il avait Juliès, directeur du centre de formation, Chéroux, qui voulait son poste, et Vincent Ponceau, et les trois l'ont torpillé. Donc il est parti. Je comprends pas comment Vincent Ponceau, qui est un très grand directeur administratif, peut maintenant se mêler du sportif. C'est un petit problème quand même. Mais bon, après, il suffit de voir comment le club est géré là. Ça. C'est un club qui est plutôt sain, mais il y a trop de batailles d'ego de ci, de là. C'est triste, parce que ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais bon.
Bien sûr.
La vanité en fait que.
On a parlé du PSG, Lyon, l'Olympique de Marseille. Sera-t-elle vendue, le club ? Sera-t-il vendu ? Romain ?
Je n'ai aucune idée. Bah, pas
ouais, ça aussi ? Aucune idée ? Ouais, les attirances peut-être saoudiennes ou encore, non. Je ne sais d'où, non, Romain.
Non, mais aujourd'hui, tu es un investisseur.
Ouais.
Tu récupères un club qui perd entre 60 et 80 millions par saison.
Mais il y a enfin voilà, il y a des consultants aujourd'hui qui te disent que oui, j'ai vu la preuve comme quoi ça se sera fait, en fait, ce sera racheté. Donc, en fait, tellement tout se dit, on ne sait plus où est la vérité aujourd'hui. Concernant l'Olympique de Marseille.
Il y a des gens qui me disaient que Mohamed Ajrouni qui voulait racheter le club, qu'il était je sais pas quoi, qu'il y avait des gaffes. Bon, moi j'avais dit, vous allez voir. Ah non, je laisse les gens parler. Quoi. S'ils veulent se persuader de quelque chose, qu'ils s'en persuadent. Maintenant, est-ce que l'OM cherche des investisseurs? Oui, je le dis depuis un an et demi. Mais comme tout, c'est pour ça que je veux pas commencer à rentrer là-dedans. Parce qu'à Lyon, il y a des. Parce qu'à Lyon, c'est un multi-actionnariat. Mais dans ce multi-actionnariat, tu as des gens qui, des actionnaires, cherchent à vendre leur part. Comme Le Havre, ça écoute. Comme tout le monde quasiment écoute les offres aujourd'hui. Donc, c'est la loi du marché de la vente. Il n'y a pas de scoop en disant ça. Hein. Vraiment aucun scoop.
Allez, rapidement, Mourad, avant la pause.
Moi, j'ai une dernière question.
Allez, avec Romain.
À part, concernant les livres publiés, bon, on a tous connu La Mano Negra,
pas mal.
Full Game. Est-ce qu'il y aurait un dernier livre en projet actuellement pour Romain?
Oui, je travaille autour d'un ouvrage autour de la guerre au Yémen, la guerre des bonnes affaires, donc avec une yéménite, Boutaïna Farouk.
Ouais.
On travaille depuis un an et demi dessus et ça va, ça va pulser. Parce qu'il y a beaucoup d'approximations quand on en parle, donc c'est un très très long dossier. Donc oui, ça ce sera le prochain, et puis si je dois en refaire un sur le foot, ce sera sans doute sur le cartel de Zurich.
Oui, carrément.
Et pourquoi un collaborateur yéménite, c'est sur ce pays principalement, ou est-ce que c'est
parce qu'elle est yéménite.
Juste parce qu'elle est yéménite, d'accord. Je pensais que sur l'état du football yéménite.
Ouais.
Non, c'est sur un truc. Voilà, c'est sur ce qui se passe dans le pays.
La guerre mondiale. Hein.
Oui, bien sûr.
Et c'est vraiment en remontant. Puis il y a des trucs très 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 importants qui sortiront. Tu vois, notamment la corruption des agences onusiennes qui soient disant apportent de l'aide humanitaire. Bon,
bien sûr.
Tu regardes les notes, tu dis attends, ça coûte cher l'internet au Yémen, hein, les opérations que vous faites, les gars.
Ouais.
Bon, pour juste donner un truc, ils avaient donné des biscuits complètement périmés à des enfants, payés, je sais pas quoi. Ça, c'est honteux, quoi. C'est honteux.
La crise humanitaire, faut pas l'oublier. Merci Romain Molina d'en parler justement. Allez, la fin avec de l'interview avec toi, Samir, rapidement.
Oui, rapidement, Romain. Moi, j'ai une question suite à ton avenir. Bon, tu es un petit peu sur les réseaux. Tu as dit que tu allais sortir des petites infos sur la Fédération française de football. Mais moi, j'ai une question à la suite de cette info que tu vas sortir. Qu'est-ce que tu comptes faire derrière ?
J'ai déjà terminé tous les dossiers d'abus sexuels sur mineurs dans toutes les fédérations internationales et j'en ai tellement que j'ai l'impression que j'ai du boulot pour 25 ans. je m'arrêterai, je prendrai un break quand le système aura complètement pété, c'est-à-dire qu'il y aura enfin la création d'un grand centre international contre les abus, qui soit pas un centre pipeau, c'est-à-dire un vrai centre, qui a de l'indépendance pour faire quelque chose, parce que moi je peux te citer 40 fédérations, de l'Islande en passant par le Brésil, la France, la Sierra Leone, je peux te citer une quarantaine. Là, on va ressortir d'autres cas et on montrera aux gens comment la FIFA a protégé certaines personnes de ces raisons-là. Quoi. Ça, c'est pour bientôt et donc on travaille à fond dessus. Donc moi, mon boulot, il sera fini, qu'on arrivera à ce changement-là. Et, je vais un peu me reposer.
Romain Molina,
merci,
en
Romain.
Tout cas, un merci. Grand merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, écrivain et aussi conférencier. Il est super sympa et beaucoup de mérite pour le travail et toutes ces investigations que vous mettez en place, Romain. Voilà,
merci.
C'est vraiment sincère et vrai. Merci Romain du temps partagé avec nous et pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. À très vite Romain.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci. On reste ensemble, une dernière pause avant de revenir avec la CAN et sans oublier les stades en France.
Time Foot revient dans un instant. 20h, 20h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Foot, spéciale Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir sur ce match, cette première demi-finale qui oppose le Burkina Faso au Sénégal. Et oui, qui vont refaire une finale. Mais on va s'attarder sur notre Ligue 1 Uber Eats et de nos stades en France.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, le duel, il va être entre qui ? Les amoureux du football, les amoureux des terrains, mais aussi tous ses supporters, le gouvernement français, la fin des jauges dans les stades. Eh oui, et le monde du sport un peu soulagé, Viknesh.
Mais totalement. Parce que le foot, ouais, le sport en général, ça reste un spectacle avant tout. Donc c'est là pour donner du plaisir, pour faire du divertissement aux gens, pour assister à un moment où on prend du plaisir, comme j'ai dit. Donc oui, il faut du monde dans les stades, il faut que les stades soient remplis. Et enfin, à la fin des jauges.
T'es d'accord avec Yacine, toi ?
Bien sûr qu'il faut arrêter avec les jauges, en fait. Parce que dans les meetings politiques, on a le droit de mettre autant de personnes qu'on veut.
Ouais, comme si, comme ça.
Etc. Et dans les stades de foot, on n'a pas le droit, alors que c'est plus respecté, il y a plus de règles, il y a plus de lois. Ouais. Donc il faut arrêter les bêtises à un moment.
Bon, on a vu aussi les envahissements de terrain. Hein.
Oui, mais bien sûr, j'allais venir à ça. J'allais venir à ça, justement. Si on peut espérer, si on peut croiser les droits.
C'est pas ce qu'ils disent en off, Viknesh.
Arrête, Mourad. Viknesh, tu vois.
Arrête. Ils ont dit, on va envahir un terrain, mais ça, il faut pas le dire tout de suite.
Ah, mais arrête, Viknesh, mais quand même, tu as cité. Mais tu es fou.
Je parle même pas des envahissements de terrain. Je parle de la jauge à 5000. Il disait que plus c'était collé serré dans les stades, plus ça l'arrangeait.
Ah, bah, Mourad. On n'est pas dans le concert aussi, Mourad.
Non, mais façon de parler, tu sais, c'est dire que c'est un aveu d'échec du gouvernement. Une jauge à 5000, il y a plus de collés serrés à 5000 qu'à 15000, par exemple.
On met tout le monde au même endroit.
Les supporters. Donc voilà, après pour les buvettes, par exemple, il n'y a pas de levée de jauge, par exemple. Les buvettes continuent à rester fermées.
C'est là où on pourra retrouver Samir et Mourad.
Oui, exactement. Ouais. Effectivement, je suis souvent la buvette du temps.
Ouais. Yacine, il est tout le temps, en tout cas, avec le coach étoilé.
J'ai loupé beaucoup de choses.
Yacine, toi aussi ? Ah, Yacine, quand même.
Moi, je suis très contente. Je suis très contente du retour. Je suis très contente du retour du public dans les stades. Ouais. Hormis le football, c'est aussi bien pour le rugby parce qu'il y a le tournoi destination qui va commencer. La France a des matchs au Stade de France qui vont arriver au mois de février et mars. Donc c'est une très bonne chose pour le sport français. Et puis juste en espérant que ça se passe mieux que ce que ça s'est passé en début de saison, notamment pour les clubs français.
C'est surtout bien pour PSG et Lille qui vont recevoir sans jauge. Dans le cas de la Ligue des Champions, c'est important. Si
c'est PSG, plaisant, moi. Il faut.
Moi, je pense plutôt à des clubs plus petits que ça. Hein. Je pense à Clermont, à Metz, etc., qui vont recevoir du public et certains clubs aussi. C'est bien pour leurs finances. Certains clubs vivent un peu sur un peu leur billetterie aussi.
On peut faire un cours d'économie, faire une boucle vertueuse.
Ouais, moi, il est habitué à ça.
Tout le monde réussit. Mais bon, effectivement, tout le monde en pâtit, même les
Samir,
petits clubs.
Samir, un mot concernant cela. Après l'interview avec Romain Molina, justement, nos stades français. Eh oui.
Les stades, c'est ce que ça vaut, les stades français.
On est un habitué des buvettes là aussi, parce que.
La France, la Côte de Rivière, les stades français après, voilà.
Ah, t'as vu? Viknesh, c'est pas bien. Réalisateur, on l'a perdu.
Il est en plus bonne émission.
Merci Mourad. Mais non, moi je suis plus. C'est vrai que, en général, déjà quand je vais au stade, moi je bouge pas trop parce que j'ai la flemme un peu de la queue, justement, la buvette ou au sandwich. J'ai un petit peu la flemme. Mais comme le disait Yacine, moi je suis vraiment content qu'il y a la fin des jauges. Franchement, on va revenir un petit peu sur l'Olympico. Ça m'a rappelé les heures sombres du football français.
C'est malheureux.
Au moment du premier confinement, c'est horrible à voir. Normalement, un Olympico, c'est un stade plein, c'est des supporters qui un peu se chambrent, c'est un Jean-Michel Aulas qui chambre aussi. C'est ce genre de choses qu'on aime.
C'est des cartons.
Et le pourquoi exactement. Mais sans public. Et tu te rends compte à quel point, en fait, la puissance des supporters dans un stade, tu te rends compte à quel point, mais c'est énorme. Je pense au Parc des Princes, je pense au Stade Vélodrome.
Quand tu le disais, Achille, Yacine.
Exactement.
Ouais, même quand même
à quel point, mais franchement, un stade sans âme, en fait, le football, il est mort, quoi. Comme le disait Yacine, très content du retour des supporters et j'en suis vraiment impatient.
Il y a beaucoup de mesures qui sautent, mais le pass vaccinal ne saute pas.
Mais c'est vrai. Il est toujours là.
Mais c'est
normal, Mourad.
On pourra regarder le match debout. Je crois qu'il y a toujours le port du masque. Oui. Non, mais plus de port du masque.
Non, il y a toujours le port du masque.
Toujours, toujours.
Donc il y a plein de mesures qui sautent, mais le pass vaccinal, il faudra toujours l'avoir pour pouvoir.
Mais c'est comme ça, Mourane. Voilà. Le gouvernement met en place un pass vaccinal.
Je pense que le gouvernement va pas tarder à suivre d'autres pays européens qui.
Ils font
main basse sur ce pass vaccinal.
On l'aura compris.
Et c'est un aveu d'échec déjà.
Mourad, vous pouvez le retrouver aussi le week-end dans les rues. C'est ça.
Eh ouais, exactement.
C'est bien ça.
Je suis pas gilet jaune, presque.
Ouais. Yasmine, alors justement, notre sociologue du sport.
Sur le pass vaccinal.
Avec non, mais arrête toi le pass vaccinal. C'est les informés qui traiteront ce sujet-là. Nous, pas trop. Et mais tu as quoi avec Neige ce soir, quand même? Ouais, c'est le 0-0 encore Burkina.
C'est la troisième dose qu'il a un peu.
Mais non. Alors. Yasmine, avec toi, avant d'en arriver sur cette Coupe d'Afrique des Nations.
Tout simplement, ça peut avoir des effets, que ce soit positif ou négatif pour les supporters. Il y aura eu cette chose que les supporters seront restés pendant un certain temps aussi un petit peu, on va dire, restreints, enfermés, de ne pas pouvoir aller au stade. Et puis après, ça peut provoquer soit quelque chose de positif et qu'il y a une ferveur qui est encore plus puissante dans un stade, soit quelque chose de négatif. Et là, comme on l'a vu en début de saison, avec des jets de projectiles, de bouteilles, etc. Et des bagarres entre supporters. Donc on peut s'attendre à ces deux choses-là. Donc il faudra faire attention et cette fois-ci prendre les mesures qui seront
progressives justement pour éviter
je sais pas si le gouvernement aime la Champions League mais les supporters reviennent.
C'est pas mal la Champions League. Notre président Emmanuel Macron aime beaucoup cette Champions League qu'il a suivie de près, tout jeune et même maintenant. Avec Marseille. En tout cas, Hakim et Fares nous écoutent ce soir et sont tout à fait d'accord avec Mourad et Yasmine, notre consultante. Voilà, on va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Or, Civic Nesh, il aura bon. Burkina, Faso, Sénégal, toujours, zéro partout, Samir. Eh oui, cette première demi-finale, avec Nesh. Alors? Sénégalais veulent réitérer encore une finale, hein. Eh oui.
Surtout la gagner, ça serait mieux.
La gagner, pourquoi pas?
La finale, c'est bien, mais.
Les Lions de la Teranga.
Donc, oui, non, pour moi, je pense que le Sénégal, sur le papier en tout cas, a une très bonne équipe, a des bons joueurs, un bon gardien, une bonne attaque, Mané, Edouard Mendy, Koulibaly, etc. Il n'y a rien à dire. Sur le papier, c'est très bien. Après, c'est sur le terrain, au niveau du jeu, au niveau du contenu, là, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Même s'ils ont gagné 3-1 récemment, mais bon, après, ça reste un peu fragile. Je trouve que le Sénégal ne donne pas le maximum qu'il peut sur le terrain. Il peut donner plus de spectacles, être plus intéressant au niveau du jeu, dominer les adversaires, avoir la balle, la possession.
Moi, je trouve qu'il y a deux Sénégal. Il y a un Sénégal, le Sénégal de la phase de poule, et il y a le Sénégal durant les matchs à élimination directe, où ils ont clairement élevé leur niveau. Après, il y a le retour d'Ismaïla Sarr, qui a été aussi un peu le facteur X. Je crois que le match référence était contre la Guinée équatoriale. Donc ouais, comme Viknesh l'a cité, ils ont beaucoup d'atouts, ils ont Edouard Mendy qui est revenu durant la compétition, il y a Sadio Mané qui a pris un coup incroyable et qui est toujours debout et qui continue à marquer pour les Lions de la Teranga. On a un milieu de terrain aussi qui est décisif avec Kouyaté, avec Namphalis Mendy, donc il y a la charnière centrale avec Koulibaly comme l'a mentionné Viknesh. Donc ils ont des atouts et ils ont des atouts qui sont intervenus, qui ont fait leur apparition en plein milieu de la CAN, donc ils sont encore frais. Il y a Bamba Dieng aussi qui fait de bonnes rentrées. Donc le Sénégal, c'est aujourd'hui le seul favori qui a respecté son statut. Sinon, tous les autres favoris sont out de la compétition. On parlait de l'Algérie en début de compétition, on parlait du Maroc, on parlait de l'Égypte. Forcément, on parle du Cameroun, c'est le pays organisateur, mais on l'a évoqué avec Romain Molina. Ils ont
quelques avantages.
Ils sont dans les meilleures conditions pour pouvoir aller au bout. Donc voilà, donc moi je mets. Il y a aussi Aliou Cissé qui fait des bons coachings. Je sais pas si vous avez remarqué, les coachings gagnants, l'entrée d'Ismaïla Sarr, etc. Donc. J'ai l'impression, pour le Sénégal, que si ce n'est pas cette année, ce ne sera jamais. Voilà.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est pour ça que je supporterai le Sénégal pour le reste de cette compétition. Même si le Burkina Faso.
C'est pas mal.
Il reste deux matchs. Pour le reste de cette compétition. Même si le Burkina Faso, ils avaient donné du fil à retordre à l'équipe nationale d'Algérie pour les qualifications pour les
barrages
du Monde 2022. Donc, avec des joueurs de Quevilly-Rouen. Des joueurs, on va dire, limite de seconde zone, mais très bien organisés, qui jouent en groupe, avec Bertrand Traoré en tête de gondole. Donc voilà, même le Burkina Faso, attention à eux, par contre.
Ouais.
Burkinabé.
Attention, Burkina. Samir, il est d'accord avec ça, peut-être Yasmine.
Qu'on n'oublie pas.
J'espère sincèrement le Sénégal va aller au bout. Je pense que cette année, c'est pour eux, même si Il pourrait éventuellement tomber sur sur le Cameroun en finale. J'ai l'impression que ces joueurs là cette année sont portés un peu par l'esprit des joueurs de 2002, des quarts de finale qu'ils ont fait au Mondial, de la finale également de la CAN. Moi je les vois bien aller au bout et je vois bien le Sénégal gagner
cette Coupe d'Afrique des Nations
pour son pays.
Je suis au courant d'un élément de motivation pour les joueurs sénégalais. Ils leur ont montré des photos et des vidéos de Metz. Donc ils leur ont dit, si vous voulez retourner à Metz, gagnez, si vous voulez pas retourner à Metz, gagnez cette carte.
Petit bonsoir à Metz, donc, hein. Ils veulent son agglomération aussi.
Ils veulent rester au Cameroun.
On parle beaucoup de Metz ce soir, Meurthe-et-Moselle. Super sympa. On les écoute du côté de la Meurthe-et-Moselle. Bien sûr, Mourad, il a bien raison.
Pour la petite blague à part, parce qu'il y a un gros partenariat historique entre le Sénégal et Génération Foot, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Metz.
Bien sûr, Mourad.
Qui composent cette équipe des Lions de la Teranga.
Et tu fais bien de le rappeler. Pour tous les auditeurs de Beurre FM. Samir, une réaction.
Oui, c'est vrai que voilà, aujourd'hui le Sénégal sur le papier, on le dit depuis le début de la compétition, a un effectif qui est immense, dont des individualités incroyables. C'est vrai que par contre sur le collectif, on l'a pas retrouvé en tout cas en phase de poule. C'est vrai que c'est un peu mieux sur les matchs à élimination directe. Je rejoins un petit peu ce que vient de dire un petit peu Yasmine et Mourad juste avant. C'est vrai que s'il la gagne pas cette année, tu vas la gagner quand? Là, tu as des joueurs qui jouent dans des grands clubs. N'as pas, en fait, bon, on verra le résultat de Cameroun-Égypte, mais je veux dire, je pense que, voilà, l'effectif du Sénégal est au-dessus de l'effectif camerounais ou égyptien. C'est vrai que, voilà, moi, j'ai plein d'amis camerounais qui me disent, écoute,
écoute ce soir aussi.
Je te le dis, la CAN, elle est pour nous. Donc, je me questionne. Je me dis, mais comment ils ont autant de certitudes?
Ah, ben voilà.
Avec ça, tu vois. En tout cas, depuis le début de la
compétition. Ça pose des pour le PSG aussi.
Depuis le début de la compétition. Si ils jouent au stade Japoma, bien sûr qu'elle sera pour eux.
Depuis le début de la compétition, on sait que l'effectif du Sénégal est incroyable. On le sait, ça, depuis le début. Mais maintenant, voilà, on sait que le football, ça se joue sur des détails et que la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas que des détails, c'est aussi beaucoup d'imprévus, beaucoup de folklore africain. Donc je le dis depuis le début, mais vraiment de manière très sincère, je suis tellement catastrophique en pronostic, donc je ne saurais.
On aura le pronostic. Eh ben on va faire un tour de table
sur ce qui se passe
avant la fin de l'émission.
La Coupe d'Afrique, c'est incroyable.
Mourad, on t'écoute rapide.
Cette CAN, justement, c'est aussi le charme de la Coupe d'Afrique. Juste pour dire, potentiel pénalty pour le Sénégal. Actuellement, il y a l'arbitre qui va checker la VAR.
Alors,
donc, on est en attente de la décision de l'arbitre.
On
revient sur le terrain.
Potentiel final, alors.
On attend le signe du rectangle de la part de l'arbitre. Il se dirige vers la surface de réparation. Que va-t-il faire?
Il sort un carton
pour qui?
Aïe, aïe, aïe.
Pour Tapsoba, peut-être?
Le
défenseur central du Bayer Leverkusen. On est en attente. Alors, en fait, il me semble qu'il annule.
On va essayer. On va essayer d'avoir le pronostic.
De
l'équipe avec toi, avec Nech. Allez, Burkina, Sénégal, cette première demi-finale de la CAN.
2-0 pour le Sénégal.
2-0 pour le Sénégal. Samir?
Moi, je vois grand max 1-0, voire match nul, prolongation, match serré. Victoire du Sénégal, mais vraiment très serré, genre pas un score large, quoi.
Allez, Yasmine, on t'écoute.
Je vois prolongation et tir au but et victoire du Sénégal.
Victoire du Sénégal, Mourad, pour toi?
Moi, je vais un peu aller à l'encontre de tout le monde.
Ouais.
C'est le derby d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso Sénégal. Je vois une victoire du Burkina Faso.
Ah ben pourquoi pas.
Merci, je joue pour le Sénégal.
Le Burkina. Le Sénégal pour Mourad. Un grand merci à Mourad, à Yasmine, à Samir et aussi à Viknesh de m'avoir accompagné et aussi à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur cette antenne, la radio de la diversité, la suite des programmes. Et aussi à 22h, vous retrouverez la réalisation Giovanni avec Vanessa. 22h, n'oubliez pas. Bye bye et à demain.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.